Bienvenue à la table ronde numéro 2 du congrès du SNAP-CGT. Salaire à vie, sécurité sociale pour tous, des utopies ? Avec Nathalie Moureau, économiste de la culture, remplacée au pied levé par Grégory Jérôme, juriste à la IR de Strasbourg, Aurélien Catin, auteur et membre du collectif La Buse, et Denis Gravouille pour la CGT Spectacle.
Ce week-end, nous invitons des artistes, des experts, expertes, spécialistes et représentantes et représentants de structures professionnelles à partager des points de vue sur les conditions économiques et sociales avec lesquelles l'artiste-auteur, l'artiste-autrice au travail compose et se confronte au quotidien. Notamment à l'absence de rémunération. Nous souhaitons mener une réflexion collective sur les améliorations voulues par les artistes et l'ouvrir aussi aux utopies. Au plaisir de se rencontrer, échanger et débattre pour faire vivre le syndicat et faire reconnaître notre travail.
Épisode 8. Communisme, intermittence et droit d'auteur.
Donc Guillaume Lanneau, je suis au SNAP depuis 27 ans et actuellement je suis président de la SAIF et je me sens pas du tout atteint d'une schizophrénie aiguë. Je vis très bien à la fois mon engagement à la CGT pour la transformation sociale et le fait d'être président d'une société d'auteurs. D'abord, il y a une petite chose, c'est que le droit d'auteur répartit de l'argent, enfin il y a du droit moral, mais sur la diffusion. Et que ça n'exonère évidemment pas les réflexions sur le travail de création en amont qui doit être rémunéré et qu'il est très nettement, enfin qu'il est insuffisamment, voire pas du tout. Donc voilà, il me semble déjà ces deux sujets un petit peu différents. Et que par ailleurs, moi je me sens pas en fait du tout en désaccord avec ce que disait Aurélien. On est dans une société capitaliste. Le droit d'auteur, effectivement, t'en touche aussi comme tous les auteurs, voilà, est un moyen de pérenniser notre activité et de toucher quelques revenus sur notre travail. Quand à la fin de l'année, on répartit quelques centaines, voire milliers d'auteurs, milliers d'euros aux 8000 auteurs de l'ASF, ils sont plutôt contents et ça leur permet aussi de pérenniser leur activité et de continuer à créer des œuvres. Mais que par ailleurs, je suis absolument d'accord sur le fait que ça ne nous exonère pas d'avoir une réflexion sur la transformation sociale. Et moi, quelque part, si demain, alors il va falloir se dépêcher parce que c'est des mandats d'un an, hein, je suis pas président à vie, mais si demain on transforme la société, qu'on assure des revenus aux auteurs comme à l'ensemble des travailleurs et que on signe la fermeture de l'ASF, je suis désolé Olivier, en même temps je suis pas certain que ça arrive, même si je l'espère par ailleurs. Donc si dans moins d'un an on fait la révolution et qu'on ferme les sociétés d'auteurs, moi je serais très content. Si on assure des revenus aux travailleurs de l'art, moi j'ai aucun problème avec ça. Et encore une fois, je suis d'accord que le fait de toucher, de percevoir du droit d'auteur ne nous exonère absolument pas d'une réflexion sur notre statut, la manière dont nos revenus doivent être pris en charge par la société. Mais le droit d'auteur, on l'a, et donc utilisons-le, touchons des droits et construisons un monde nouveau.
Merci Guillaume. Je vais passer le micro à Émilie qui le demande depuis tout à l'heure.
Merci. Je voulais juste revenir sur le mot utopie qui est le premier mot de la table ronde, je crois. Et donc, je crois qu'on a compris que la SAIF était la meilleure société d'auteurs pour les artistes-auteurs parce qu'elle est collective, parce qu'elle est gérée par les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes, etc. Et c'est très bien, peut-être on pourrait arrêter le débat sur le droit d'auteur et aller vers l'utopie. Et en plus, pour les écoles d'art qui sont pas diffuseurs, il y a aussi un combat à mener là-dessus, mais c'est en cours. Donc par rapport à l'utopie, j'ai cru comprendre à certains moments, sur certaines interventions, notamment du public, qu'on naturalise quand même beaucoup ici, y compris entre nous qui sommes précaires et qui essayons d'avoir de l'avance sur ces questions, le monde marchand et le capitalisme. Et peut-être que c'est pas une utopie, mais plutôt un devoir politique de tenter de se représenter une sortie de cette non-naturalisation du capitalisme, hein, parce que ça a une histoire, etc., et que c'est très bien que ça nous tombe entre les mains à nous, qui sommes des producteurs d'images, de sons, etc., et qui sommes donc à même de diffuser ces désirs, ces envies de société plus juste, et de sortir de l'idée d'avoir la sensation d'être une grosse merde, voire la plus grosse des merdes, parce qu'il faudrait s'insérer dans ce capitalisme qui n'a rien de naturel, en fait. Et il me semble que c'est quand même de notre devoir de se calmer, de tenter de ne pas défendre becs et ongles ce pourquoi on est là depuis 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, dommage, tant pis pour nous, on est des boomers, on a fait ce qu'on pouvait, mais voilà. Peut-être réunissons-nous autour de ce mot utopie, qui n'en serait pas une, et battons-nous quoi vraiment ensemble pour aller plus vers ce que eux ont envie de vivre si l'humanité a une chance de survivre à ce qu'on traverse aujourd'hui.
Oui, moi je m'appelle Jean-Jacques Barré, je suis un vieil ami du SNAP. Et je voulais juste rebondir sur une question qui a été un petit peu le point de départ d'ailleurs de nos échanges. C'est la question du revenu de remplacement des artistes auteurs par analogie au régime de l'intermittence. On a, au sein du Parti communiste, on a créé un groupe de travail auquel participent Aurélien, Irène, deux ou trois autres derrière moi, etc., plus plein. Plus un camarade de la CGT qui est Guilin, l'adjoint, le secrétaire général adjoint de la CGT Spectacle. Et on est abouti. On a fini par aboutir en plus d'un an de boulot, 5 réunions, 150 pages de verbatim et que sais-je encore. On a abouti à la rédaction d'un projet de loi, ça s'appelle une PPA, un projet de proposition de loi, qui est sur le bureau de l'Assemblée depuis la fin de la dernière législature, donc de la nouvelle. On va mettre ça dans les tuyaux assez rapidement, je pense. Maintenant, faire un petit peu la fourche dans les reins de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée pour que ça soit au moins débattu en commission. Maintenant, ça réglera pas tous les problèmes, loin de là, parce que il y en a un, et d'ailleurs je me tourne un peu vers Denis, c'est le problème du régime général, justement. Comme vous l'avez d'ailleurs tous rappelé, pas question que des caisses spéciales, que sais-je encore, etc., le revenu de remplacement devra être assuré par le régime général, qui se trouve en l'occurrence être l'UNEDIC, les ACEDIC, etc. Le problème, c'est que faut être deux pour danser le tango, et que les artistes-auteurs n'ont pas l'équivalent de l'employeur en face d'eux, puisque les fameux diffuseurs qui cotisent à 1,1% pour solde de tout compte ont toujours refusé de près ou de loin ce qui ressemblerait de près ou de loin au rôle de l'employeur. Alors, on va être confronté à cette première difficulté au sein de l'UNEDIC, puisque l'UNEDIC, la direction de l'UNEDIC va nous dire, vous êtes bien gentil, mais qui c'est l'employeur? Qui avez-vous en face de vous pour cotiser, par exemple? Bon, première question. Deuxième question, cotiser. Mais à quel montant, quel taux, etc. Il va falloir qu'on attaque dès maintenant les décrets d'application. Je vous la fais courte parce que je monopolise déjà un peu la parole là, mais je voulais juste vous dire à propos de ce groupe de travail qui va bientôt redémarrer, on a toujours qualifié notre histoire de revenu de remplacement de premier étage de la fusée. Le deuxième étant, de notre point de vue, et en tant que parti politique, je veux dire, avec évidemment la consultation, la concertation, le dialogue permanent avec les organisations professionnelles, le deuxième étage étant la reconstruction d'un régime général de protection sociale, disons du régime de l'inscription dans le régime général de la protection sociale, de la sécurité sociale des artistes auteurs. Reconstitution par hypothèse de l'organisme attentionné et bienveillant, comme dirait Guillaume, qui était l'AGSA et la Maison des Artistes. Enfin, la bienveillance pour l'AGSA, ça se discute, mais bon. Vous m'avez compris, avec des instances élues au suffrage universel des ayants droit, ce qui était une survivance, tout simplement, du premier régime général de 1946, où les. Et c'était la dernière, si je peux dire, la dernière survivance d'une gestion démocratique de la sécurité sociale qui, tout en subsistant, est devenue un espèce de régime plus ou moins paritaire, avec des dirigeants nommés par leurs organisations, etc.
Et étatiques, repris par l'État.
Alors, justement, oui, avec tout ce que ça comporte d'étatisation progressive, avec toutes les tâches qui nous attendent dans la période actuelle. Excusez-moi, je suis trop long déjà.
L'enjeu, et je suis bien content d'entendre les réactions d'un certain public, surtout
alors,
de la jeunesse.
Alors, excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous présenter avant...
Oui, je suis Rémi Cardinal, militant à Réseau Salariat, et je suis un camarade de lutte d'Aurélien Catin et de nombreux parmi vous ici. L'enjeu, effectivement, c'est bien de sortir du mode de production capitaliste. Et on le voit bien... Avec certaines interventions qui, malheureusement, sont de la CGT, la guerre entre les grands capitalistes et les petits capitalistes. Non, il s'agit vraiment de comprendre qu'en ce moment même, il y a un déjà-là communiste. Le régime général de la sécurité sociale est un déjà-là communiste. Il est encore trop peu utilisé, il n'est pas général, et nous devons nous appuyer dessus pour sortir du mode de production capitaliste. Oui, le régime des intermittents du spectacle, c'est un début d'une sortie du régime du mode de production capitaliste. Pardon, oui, Denis, il faut que les auteurs plasticiens rentrent dans le régime de l'intermittence pour enfin comprendre que nous avons déjà un salaire grâce au chômage qui n'est pas de la même nature que le salaire capitaliste. Donc, il est évident qu'on ne veut pas tous devenir chômeurs, mais on utilise des outils qui sont là pour enfin changer la nature du salaire. Et nous voulons effectivement maintenant un salaire communiste, c'est-à-dire un droit au salaire, un préalable au travail, d'abord du salaire pour pouvoir produire autrement.
Peut-être pour calmer un petit peu le jeu, je crois qu'on est quand même assez d'accord. Je sais qu'on est d'accord, je sais quoi. Mais pour répondre sur Staline et venir à ce qu'a dit Jean-Jacques, membre du Parti communiste, quel bordel. non, évidemment, le modèle, comme l'a dit Rémi, le modèle qu'on ne. Pardon non, le modèle, comme l'a expliqué Rémi avec passion, c'est bien sûr le régime général de sécurité sociale qui, entre 46 et 67, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, est géré par les travailleurs et les travailleuses. C'est-à-dire que dans les caisses de sécurité sociale, 75% des administrateurs sont des représentants élus par les salariés. Voilà. Et donc, c'est à l'époque l'équivalent du budget de l'État, dans les années 60, qui est géré directement par les travailleuses. C'est quand même pas rien, et c'est ça notre modèle, nous. Et avec la qualification, quand on dit salaire à la qualification personnelle à 18 ans, c'est pas le revenu de base, c'est pas dire on vous file du fric et puis voilà, c'est réglé. Non, c'est de dire que ce salaire repose sur une qualification, qu'on a droit d'exercer cette qualification dans une organisation collective du travail, même si on a un indépendant, et c'est qu'on a aussi des droits politiques qui sont attachés à cette qualification, des droits, par exemple, à la maîtrise collective des caisses de salaire, des droits sur les outils, sur la maîtrise collective des outils de la création monétaire, des droits, je sais pas quoi, j'avais noté, évidemment dans les entreprises aussi, à la gestion collective, en s'appuyant sur ce qu'on a déjà fait sur les coopératives, par exemple. Donc tout ça, c'est un package. Et l'idée, évidemment, c'est pas un État qui nous verse un revenu universel. C'est la démocratisation de l'économie qui s'appuie sur un nouveau statut de la personne vis-à-vis du travail. C'est très important. Mais alors, bon, là, c'est la grande perspective, évidemment, sur laquelle, encore une fois, on n'est pas en désaccord. Ça demande à être précisé évidemment, mais comme en guise de premier pas, en plus on a fait un truc de compromis, c'est-à-dire que ce soit la proposition.
La solution arrive.
Merci. Géré par les intéressés. Et je finis là-dessus, après je vais faire tourner le micro parce que je parle beaucoup, mais que ce soit la proposition de loi à l'initiative des communistes, ou que ce soit la tribune qui est dans le même état d'esprit politique avec sans doute des seuils un peu plus ambitieux qu'on a fait avec l'abuse, le SNAP, le STA, qui vise justement à élargir le régime des artistes-auteurs avec les accidents du travail et maladies professionnelles, avec une assurance chômage, on précise bien que l'idée, ce serait aussi de faire gérer ce régime par les intéressés, hein, que tout ça c'est en lien avec aussi des élections professionnelles et avec une représentation des intéressés dans la gestion du régime. Tout ça, c'est, voilà, notre but, c'est la démocratie économique totale. Et je crois que là-dessus, on est, mais évidemment pas en désaccord, puisqu'on s'appuie sur ce que la CGT a construit au XXe siècle.
Je pense que la question de la gestion par les travailleuses et travailleurs eux-mêmes est essentielle. Je vais te dire pourquoi. Parce que sans ça, on invente des systèmes globaux dans lesquels les travailleurs et les travailleurs précaires, ils ont été oubliés. Le régime des intermittents, c'est une exception parce qu'on a construit des rapports de force dans ce sens-là. Et les sociétés d'auteurs, par exemple, je suis pour le coup d'accord avec ce qu'elle dit tout à l'heure, si on dissocie le droit moral du droit patrimonial, on ne défend plus rien. On aura un droit théorique et on n'aura pas moyen d'avancer. Donc je pense que le système totalement unifié, ça marche que si c'est un cadre dans lequel on laisse la place aux spécificités, parce qu'il y en aura quand même. On voit bien sur la Sécu, par exemple, tout est construit sur le modèle de la personne qui est en CDI à temps plein toute sa vie dans une même entreprise. Or, il y a des millions de travailleuses et de travailleurs qui ne sont pas dans ce cas-là et qui sont ni artistes, ni intermittents du spectacle ou autres, et à qui ont droit, ah bah vous n'avez pas atteint le seuil. Faut repenser le système en tenant compte de la diversité des situations. C'est ça qu'on dit. Et ça ne passe pas par un système totalement unifié, mais qui soit, par contre, ça passe par un cadre. Et c'est bien ça qui doit arriver. Et deuxième réponse, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement, évidemment, la question des revenus est une question essentielle en termes de fonctionnement, de vie de tous les jours. Mais les outils de gestion collective, c'est par exemple les salariés qui sont dans des entreprises, ils ont droit, alors ils ont été massacrés par les lois et autres, ils ont droit à des, on appelait ça avant des comités d'entreprise, mais la question des comités d'entreprise, c'est aussi le moyen de non seulement d'avoir des activités sociales et culturelles, on essaye de le développer. Les travailleurs précaires et notamment les artistes font partie de ceux qui n'ont pas le droit aux activités sociales et culturelles. Vous n'avez pas de moyen d'avoir des réduction par votre comité d'entreprise, vous n'en avez pas pour aller voir. Et surtout, vous n'avez pas les moyens d'organiser des choses avec ce comité d'entreprise. Il y a des comités d'entreprise qui ont organisé des résidences de création. Il y a des comités d'entreprise qui ont fait rencontrer des artistes et des travailleurs d'autres métiers pour discuter de leurs conditions de travail et leur donner la parole et créer des choses avec eux. Ça doit être possible collectivement pour que tout le monde y ait accès. C'est ces questions-là qui sont pas... Alors, la question des revenus est essentielle, mais la question du mode de fonctionnement est aussi essentielle, et c'est pour ça que je pense que... Enfin, après, je sors de mon mandat. Hein, quand on essaie de donner du corps au nouveau statut du travail salarié, qui pourrait s'appeler sans le S, nouveau statut du travail, puisqu'on est sur la Confédération Générale du Travail et pas la CGT, nous devons penser le travail, et nous devons le penser de façon à ce que il y ait des cadres légaux, mais qu'il y ait les moyens de s'organiser collectivement. Et ça passe par différents groupes, différentes organisations, et puis par ailleurs, pour reprendre sur ce que disait le Massico, arriver à notamment développer l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, c'est pas la version officielle du monde dans lequel on veut nous amener.
Est-ce que un dernier mot?
Oui, un dernier mot, c'est présomptueux, mais dans le Marigot, quelquefois apparaissent quelques perles, et notamment parce qu'on a bien compris que la parasubordination, la fausse indépendance, c'est une tendance de fond et lourde. On a parlé des auto-entrepreneurs, on a parlé de cette ubérisation de travailleurs des plateformes. A contrario, apparaissent quelquefois aussi ce que moi j'appelle de la supra-subordination, c'est-à-dire que des collectifs de personnes qui décident souverainement de créer des collectifs de travail, des coopératives, ça peut être des coopératives d'activité et d'emploi, ça peut être des coopératives de production, et qui décident collectivement de créer une structure pour se doter de droits et de forces de négociation dans les rapports de force avec leurs clients, leurs commanditaires. Je pense notamment à Octopus, parce que je vois Emmanuel qui est là. C'est un super truc qui a été fait, par exemple, qui a consisté à contrecarrer le rapport de force très déséquilibré entre les artistes qui sont souvent conduits à devenir installateurs d'œuvres, régisseurs, etc., parce qu'ils ne trouvent pas suffisamment de sources de revenus à leur activité de cœur. Et du coup, ben, ils ont cette possibilité de réinvestir leurs compétences et leur savoir-faire dans une activité conçue comme annexe ou accessoire ou alimentaire, mais en tout cas de le faire et de le faire bien, quoi. Eh bien, dans l'organisation telle qu'ils l'ont pensée, eh bien, ils ont renversé le rapport de force. C'est-à-dire que de faussement indépendants à bosser pour les grosses structures culturelles parisiennes notamment, eh bien, ils se sont organisés de sorte à peser collectivement sur les conditions qui leur étaient faites avant de s'organiser. Enfin bon, il y a plein d'exemples comme ça qui apparaissent un peu partout, et c'est plutôt bien de se le dire, parce que il y a la transformation globale, et il y a quelquefois aussi, en créant quelques îlots comme ça pour se doter de pouvoirs supplémentaires, quoi, on peut aussi contribuer à archipéliser un peu tout ça, quoi, et ça peut être bien.
C'était le 8e épisode des tables rondes du congrès du SNAP-CGT. Enregistrement et montage, Clara Rivoisi. Vous pouvez aussi retrouver ces podcasts sur www.radiocampusparis.org ainsi que sur www.snapcgt.org.